Nous sommes le 7 mars ici à Genève, en fait plus précisément au Spoutnik, comme on le sait toutes et tous, le plus beau cinéma du monde. Et nous sommes en compagnie de Noémie Aubry et Anouk Mangin. Bienvenue, merci de nous recevoir, Libre Radio, à l'aune, juste avant la projection de votre film, film qui s'appelle Une autre montagne et dont on va parler maintenant. Alors peut-être avant de parler à proprement parler du film, peut-être diriez-vous quelques mots de vous-même, de votre trajectoire, de ce qui vous a mené à parcourir quelques régions de la Turquie, justement sur les traces de cette résistance kurde qui a cours. Je ne sais pas qui veut commencer.
Eh bien, bonjour, merci. Moi, je suis Anouk. Et ça fait bientôt 10 ans qu'on parcourt les routes de Turquie jusqu'à d'ouest en est. Et en fait, ce qui nous a menés là-bas, en premier lieu, c'est un film qu'on a réalisé en 2011, qu'on a sur... avec des migrants qui traversaient entre la Grèce et la Turquie, qu'on a rencontrés en Grèce et qui nous racontaient aussi tout leur parcours en Turquie. Et du coup, on a eu envie d'aller voir aussi plus loin. Voilà, de fil en aiguille, ça nous a amené à... Moi, j'ai vécu là-bas pendant plusieurs années. Noémie a fait beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Et est né ce film dont l'idée est venue après les révoltes de Gezi, en fait, donc les révoltes de la place Taksim, à Istanbul en 2013, un gros mouvement d'occupation contre l'occupation contre la destruction d'un parc au centre d'Istanbul, qui a réuni tout d'abord des petits groupes, des petits collectifs contre la gentrification, et puis très très vite, beaucoup 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 de gens ont suivi et ont participé au mouvement. Je crois que plus d'un million de personnes est arrivé sur la place. Une occupation qui a duré 2 semaines et dans laquelle les femmes et les mouvements féministes et les mouvements LGBTI, etc., étaient très très visibles, en fait, étaient vraiment au devant de la scène, autant sur les barricades que à l'intérieur du parc avec des tentes qu'ils installaient. Il y a eu tout un travail sur les slogans ou sur les insultes qui sont sexistes, etc. Enfin, il y avait plein plein de choses, plein de petites choses qui étaient distillées dans le parc. Et voilà, nous, on a eu envie de raconter aussi Gezi d'une autre façon. Et c'est de là qu'est parti le projet d'une autre montagne.
Très bien. Noémie, voudrais-tu toi-même peut-être dire quelques mots de ta trajectoire et justement de la manière dont tu es arrivée à ce projet-là?
On travaille avec Anouk depuis à peu près 15 ans, là, ensemble. Et on a commencé par faire un film qui était une sorte de... ce qu'on appelait plutôt un essai qu'un film, qui était une sorte de chaîne d'écriture et de réponse d'une personne à l'autre sur la question de l'oralité. Et sur, à l'époque, notre génération, donc nous, on est né dans les années 80, qu'on appelait en France la génération sacrifiée. Et du coup, c'était donné 30 ans plus tard la parole du coup à notre génération qui là avait 30 ans et de que les gens reviennent et racontent un peu qui ils étaient, etc. Et donc ça mélangeait des poètes, des slameurs, des rappeurs, des gens qui faisaient du théâtre, des gens en gros qui mettaient à l'oral de l'écrit, pour dire vite. Et ce film, il nous a servi comme outil pour faire des ateliers. C'est-à-dire qu'on passait le film et après on poursuivait cette parole-là avec plein de gens différents, dans plein d'endroits différents. On l'a passé aussi bien dans des festivals que dans des squats, dans des médiathèques, etc. Et du coup, dès le départ, nous, en fait, on travaillait sur la question des identités, des minorités. C'était un fil qu'on a, et que du coup, on a tenu jusqu'à une autre montagne aujourd'hui, quoi.
D'accord. Alors, on l'a vu, c'est un film qui parle de résistance. Où en est-on, de votre point de vue, de cette résistance kurde en Turquie à l'heure actuelle? Est-ce que la langue kurde est toujours interdite? Est-ce que les gens sont toujours incarcérés? Où en est-on?
Alors,
c'est à nous qui répond.
Notre film, il n'est pas exactement sur la lutte des Kurdes. Mmh. Il est un peu aux abords, en fait, de cette lutte. Et l'envie qu'on avait, nous, c'était de raconter les luttes des femmes et les luttes des femmes en Turquie qui partent, en fait, des luttes de l'intime et pour aller jusqu'aux luttes aussi dans l'espace public. La question kurde, évidemment... elle est arrivée très très tôt dans notre travail, hormis le fait que quasiment tous nos amis sont kurdes de Turquie. Il y avait aussi le fait que ces femmes-là, il y en a deux qui sont kurdes, et une qui est mariée avec un Kurde depuis qu'elle a 15 ans. Donc l'idée, c'était aussi de réfléchir à comment dans la trajectoire d'une femme, comment arrive la politisation, en fait, et comment les luttes changent, se déplacent, etc., avec le temps. Et bien évidemment, alors pour répondre à ta question sur la langue kurde, c'était une des réponses. On discutait beaucoup de ça, notamment avec Sinem, qui est le personnage du film, qui est, en fait, il y a trois générations qui s'entrecroisent. Il y a une femme de 30 ans qui s'appelle Bourdjou, une femme de plutôt 40-42 ans qui, elle, est celle qui s'est mariée à 15 ans avec un Kurde, donc, qui s'appelle Sinem. Et puis il y a une femme plus vieille qui s'appelle Ergül, qui a 60 ans. Et voilà, en gros, Sinem, elle nous a dit beaucoup, beaucoup de fois, par exemple, que dans les années 90, c'était pas possible de chanter en kurde dans la rue, de parler kurde, etc. Et elle, ça, c'est des moments de sa vie aussi qui l'ont politisé et beaucoup marqué. La langue kurde, maintenant,
on peut dire que c'est, enfin, en fait, ça a été, c'est plus illégal de parler ou de chanter kurde, donc c'est pas hors la loi, disons. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment en Turquie qui n'ont pas forcément rapport avec la loi, qui ont plus rapport avec des prises de parole et des prises de position des gens du gouvernement public, et qui vont du coup accuser des gens sans qu'une loi tombe, mais qui font en fait créer une sorte de pression de la société contre des comportements, des façons de s'habiller, comment on parle, ce qu'on chante, etc., qui ne passent pas par les lois, qui passent par le fait que 70% des gens en Turquie voteraient pour Erdogan, et que du coup, quand lui dit ça il faut pas le faire ou ça il faut le faire, et ben les gens suivraient, ce qui fait qu'il peut y avoir des pressions. Et la langue kurde, pour donner un exemple, je pense que c'était il y a 2 ans, je crois, où un gars parlait au téléphone en kurde dans un bus à Istanbul, il s'est fait poignarder, et on a du mal à trouver une autre raison que le fait que la seule raison n'était pas qu'il parle kurde au téléphone. Mais en vrai, je sais plus exactement quand l'interdiction a été levée, mais c'est à la fin des années 90, non, dans les années 2000. Je pourrais pas dire la date.
Mais c'est, quoi qu'il en soit, récent.
Ouais, c'est récent.
Très récent, quoi.
Oui.
Et pour l'anecdote, ce qu'on dit à chaque fois, mais parce que nous, on a un rapport à la musique en Turquie qui est très fort, mais par exemple, dans la question de l'importance des combats des femmes, ou même de la... Comment, en fait, quand on est une femme, beaucoup de choses qu'on fait est politique. Une des premières personnes qui a sorti un disque en langue kurde sous un label turc en Turquie, c'était une femme. Qui s'appelle Aynur Doğan, et qui était la première personne, enfin une des premières personnes qui a fait ça. Et juste pour rebondir ce que disait Anouk, c'est qu'aussi toutes ces femmes, ce qu'on a essayé aussi de montrer, c'est comment ce qu'on peut appeler ici l'intersectionnalité, mais comment on est le fait d'être une femme, le fait d'être une kurde ou d'être une turque mariée avec une kurde, le fait d'appartenir à telle ou telle classe sociale, etc. Toutes ces identités-là, elles se mélangent et elles forment aussi cette résistance. C'est pas une résistance que de femmes ou que de Kurdes, c'est des choses qu'elles arrivent à lier dans leur, dans leur vie, et qui les rendent aussi fortes, quoi.
Ouais, ok. Alors on l'a dit, Une autre montagne, c'était un documentaire qui est à peine paru, en 2017, de 82 minutes. Alors pour commencer à présenter ce film, voilà une phrase: sur les terres de Turquie, un dicton dit, je cite, « Si un de tes yeux pleure, l'autre ne peut rire ». Qu'est-ce qu'aimerait illustrer ceci, qu'est-ce qu'il aimerait expliquer cette formule?
Eh bien, ce dicton, en fait, il est tiré du film. À un moment, on est avec un des personnages et on entend ça à la radio. Et c'est une journaliste, qui parle du Kurdistan, et ça se passe en 2016. On a fait le tournage en 2016, au moment où, dans le quartier de Sour à Diyarbakir, il y avait des couvre-feux, une occupation de l'armée turque en permanence. Aussi dans les villes de Cizre, les villes de Nusaybin, qui sont des villes à la frontière de la Syrie et de l'Irak. Et en fait, le dicton « si l'un de tes yeux pleure, l'autre ne peut rire », en fait, c'était pour illustrer à l'est du pays, il y a des couvre-feux, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont obligés d'être déplacés, etc. Et qu'à l'ouest de la Turquie, officiellement, il se passe rien, mais l'autre œil ne peut pas rire non plus. Et du coup, pour nous, ça illustrait bien cet écho et ce rapport-là qu'il peut y avoir entre l'ouest et l'est de la Turquie. Et ce soutien en permanence des luttes, ouais, et des combats qui sont menés dans l'est, quoi.
Alors justement, si on prend une carte de la Turquie, on sait qu'au sud-est, c'est effectivement une zone peuplée, pour certains recoins, même majoritairement, par des Kurdes. Est-ce que, pour en revenir une dernière fois justement au Kurdistan, le Kurdistan turc en l'occurrence, y a-t-il une différence du statut des femmes dans des zones kurdes, de militance kurde ou pas, par rapport au reste de la Turquie? Est-ce que par exemple dans le sud-est ou dans certains cantons qui, à majorité kurde, dans lesquels peut-être une certaine résistance est peut-être plus vivace, est-ce qu'on constate ou pas un statut différent des femmes?
Bah, je
Je
peux
dis ça en lien
répondre.
aussi avec le Rojava, par exemple, où on sait qu'il y a toute une notion, toute une philosophie des femmes qui est mise en place et.
Bah après, je pense qu'on peut dire que politiquement, oui, puisque depuis plusieurs années, il y a l'histoire des commères, c'est-à-dire un partage, on va dire, politique paritaire, disons. Ça, c'est une chose, on va dire, publique et de gestion, quoi, et d'administration, etc., et qui n'est pas rien, qui est importante à être mise en place. Dans la vie privée des maisons et des familles, moi, je pourrais dire qu'on n'en sait rien. C'est-à-dire que moi, j'en sais rien. Je suis pas sûr que quiconque pourrait se prononcer là-dessus. Enfin, et ça veut pas dire que je pense qu'après, il n'y a pas à se demander si c'est pire ou mieux. Je pense que quelque chose est en train de se mettre en place. C'est quand même pas très vieux. Et que je pense que pour l'instant, j'allais dire les conséquences, ce que ça peut changer, bah, c'est pas sûr que ça aille aussi vite que ça, quoi. Et que du coup, je pense qu'il faut voir ça sur un temps beaucoup plus long, quoi.
D'accord.
Ce qui est sûr, c'est que ces dernières années, en tout cas, oui, il y a des choses qui sont mises en place, des groupes de femmes, des maisons des femmes, mais ce qui veut, oui, comme disait Noémie, ce qui veut pas du tout dire que dans les maisons en privé, c'est la fête du féminisme en permanence, quoi.
Comment est-ce que vous en êtes arrivé à rencontrer justement ces trois personnes de ces deux générations, de ces trois générations, donc Bursu, Sinem et Ergul? Comment s'est passée cette rencontre?
Et en fait, c'est des femmes qu'on connaissait déjà par ailleurs. Bah, comme je l'ai dit au début, moi j'ai vécu en Turquie pendant plusieurs années. Ce qui nous a amené à faire le film aussi, c'est, comme je disais, c'était après la lutte de Gezi. On avait aussi envie de raconter cette histoire-là sous un autre angle. Et en 2014, on a réuni une quinzaine de femmes qui étaient nos amies et les amies de nos amies. Dans une discussion en fait sur l'après Gezi qu'on a filmé et qu'on a enregistré. Et au départ, on voulait faire un petit court-métrage de ça en fait. Et très vite dans la discussion, donc il y avait Bourdieu était présente. Bourdieu était une amie des milieux féministes. Sinem était présente. Elle était ma voisine, donc c'était vraiment une personne très très proche. Et très vite dans la discussion, en fait, les filles qui étaient plutôt de la génération assez jeune sont revenues elles-mêmes à tout ce qu'elles avaient pu apprendre de la lutte féministe, de l'histoire de la lutte féministe en Turquie. Et sur les années 90, la répression, et la répression notamment du mouvement kurde, et sur les années 80, sur la répression qui a eu lieu sur les mouvements de gauche et d'extrême gauche après le coup d'État de 80. Et du coup, voilà, on est parti sur un autre film et on s'est dit, en fait, il faut qu'on. C'est là qu'on s'est dit, voilà, qu'on allait travailler avec Bourdjou et Sinem parce qu'elles avaient
Une expérience
une
politique
expérience,
différente.
voilà, complètement différente. Elles n'avaient pas le même âge non plus, pas la même vie familiale. Et puis, ben, on a ajouté Ergul parce que Ergul, c'était aussi
Bonsoir. Bonsoir.
La maman en fait qui avait vécu aussi les années 80 et qui avait cette expérience-là de rapport aussi aux prisons, voilà, et d'organisation de femmes.
Non, mais juste pour ajouter, c'était aussi que quelque chose qu'on avait senti assez vite, même avant ce film-là, c'était qu'il y a l'héritage politique et la force aussi de cette résistance, elle tient aussi dans une transmission qui existe très forte, quoi. Et que du coup, l'histoire des trois générations, pour nous, c'était très important à tenir parce que ça venait aussi raconter ça.
Oui. Alors ça, j'avais bien perçu cette idée-là. Alors justement, selon vous, de votre point de vue, qu'y a-t-il de commun dans les luttes entre ces trois générations et qu'y a-t-il d'extrêmement divergent dans la manière de s'approprier les luttes, dans sa manière de les mener, dans le contexte dans lequel elles se situent?
Eh ben, je dirais de voir le film,
Ouais, certainement.
évidemment, mais parce que ça raconte vraiment justement
D'accord,
ça.
ouais.
Et après, pour faire un petit résumé, Ergül, c'est une femme qui a fait partie justement des mouvements d'extrême gauche, mais qui était clandestin du coup dans les années 60, enfin, de la fin des années 60 jusqu'aux années 80, et qui après le coup d'État, comme beaucoup de gens autour d'elle, dont son mari, se sont fait arrêter et emprisonner. Voilà, c'est passé aussi à l'organisation d'une lutte plus sur les droits civils et sur des organisations plus publiques en tout cas. Voilà, ça c'est un peu son parcours politique. Cinem, c'est complètement autre chose. C'est un parcours politique, comme je disais, très lié à sa vie intime et sa vie familiale et qu'elle transforme. Voilà, pareil, j'ai envie de dire aux gens de regarder le film. Et Bourdieu, elle est encore sur une autre façon de vivre la politique et au départ d'une façon organisée politiquement, et puis après elle met vraiment en application dans sa vie personnelle ses principes.
D'accord,
c'est
donc
vraiment
on
une
voit qu'il y
personne
a
comme ça.
autant des choses communes, en sens
Oui.
commun, et en autant effectivement des représentations qui changent
Exactement.
Au travers des temps. Et vous-même, alors vous avez parcouru la Turquie, vous avez accompagné ces personnes-là. Y a-t-il un avant et un après, une autre montagne pour vous? Qu'est-ce que vous en avez rapporté? Comment ça vous a changé?
Bon, après, je crois que
Noémie.
la chose, je sais pas, la plus terre à terre, j'ai envie de dire, qu'on peut dire, c'est que c'est, comme disait Anouk, ces trois personnes nous qu'on connaît depuis 7 ans, 8 ans. Et que la première chose que ça a fait, c'est juste qu'on a. Nous, on connaissait un peu leur histoire, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de travailler avec elles. Mais par contre, on a découvert plein d'autres choses dans ce qu'elles avaient vécu, ou ce qu'elles avaient même à raconter, ou à transmettre, pour le coup. Non, mais par exemple, c'est assez drôle, c'est que des amis, par exemple, qui les connaissent, en France, je veux dire, parce on a réussi à faire qu'elles viennent en France pour la sortie du film, donc elles sont venues en France, etc. Et puis, du coup, elles sont venues chez nous, évidemment, puisque ça fait quand même 10 ans qu'elles nous accueillent en Turquie, donc c'était agréable de pouvoir les accueillir à notre tour.
Certainement.
Et puis voilà, du coup, elles ont rencontré nos amis, etc. Et puis voilà, juste, ils se rencontrent. Et puis, quelques semaines plus tard, nos amis voient ce film. Et du coup, la deuxième fois où elles viennent à la maison, après qu'ils aient vu le film, tout à coup, ils ont une sorte de regard sur elles. Qui change forcément parce que la première fois qu'ils les ont rencontrés, ils rencontrent des amis d'amis, voilà. Et puis entre-temps, ils ont accès par ce film à une partie de leur histoire qui n'est pas du tout toute leur histoire, mais qui change aussi à un moment donné leur regard puisque ils se rendent compte aussi de ce qu'a été leur parcours, quoi. Bah, nous, on pourrait dire que ça ne nous a pas autant fait cette différence-là, mais que oui, il y a des choses qui sont transformées dans pas du tout nos rapports à elles, mais plus des choses de justement aussi qu'elles nous ont transmises, quoi. Des choses peut-être auxquelles nous aura peut-être raconté peut-être dans 3 ans, peut-être dans 10 ans, je ne sais pas, et qui là, voilà, se sont rencontrées à ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est que ces trois femmes se sont rencontrées par le film. Elles ne se connaissaient pas, on les connaissait, mais elles ne trois ne se connaissaient pas, et que ça a été une rencontre et pour nous et pour elles très importante, quoi. Enfin, je veux dire, elles se voient toujours, elles discutent toujours, et que ça c'était, je pense, un des trucs vraiment très importants pour nous.
Ouais, parce que j'imagine qu'effectivement une telle proximité dans ce type d'urgence, il va y avoir quelque chose d'extrêmement intense qui accourt, qui s'installe, j'imagine. Alors, comment est-ce qu'on prononce une autre montagne?
Pashkabida.
Voilà, je voulais pas le faire moi. Alors, dans ce titre, il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement la montagne, ça peut nous rappeler des régions de la Turquie, des régions du Kurdistan qui sont effectivement montagneuses, des hauts plateaux. Y a-t-il d'autres choses derrière? Quelles sont-elles, ces montagnes-là? Est-ce que ça a trait au mythe de Sisyphe? Est-ce que c'est des montagnes que l'on gravit, que l'on continue de gravir, etc. Qu'en est-il?
Alors, évidemment, ce titre n'est pas anodin.
J'imaginais bien, ouais.
En fait, en Turquie, Dağa gitmek, Dağa çıkmak, c'est aller partir à la montagne, ça veut dire partir, s'engager dans le maquis, en fait, aller s'engager dans la guérilla. Notre envie avec ce titre, c'était évidemment, comme tu l'as dit, de représenter la montagne et ce fait que dans les luttes des femmes, enfin, on trouvait que ça représentait bien, ça symbolisait bien la lutte des femmes, le fait de gravir une montagne et puis derrière, il y a toujours une autre montagne, de la vie privée à la vie publique, etc. Et évidemment, c'était aussi un hommage aux femmes qui luttent sur le front dans le sud-est de la Turquie et puis de la Syrie, etc. Sur Parce que donc aller à la montagne, c'était s'engager dans la guérilla. Et l'idée, c'était aussi de dire que ces femmes à l'Ouest, elles luttent de façon différente, de multiples façons différentes, et que ça aussi, c'est une montagne, en fait. C'est une façon aussi de s'engager dans la lutte très très forte, aussi, et aussi forte que le fait de prendre les armes pour aller dans la guérilla. Pour mettre sur un pied d'égalité.
Ah bah, moi j'ai pas grand chose à rajouter. C'est moi qui ai trouvé ce titre, alors que je suis la seule personne qui parle pas turc. Du coup, je suis extrêmement fier de moi.
Ouais, en tout cas, c'est un titre qui évoque des choses, je trouve, sur plein de thèmes. Alors, on arrive au terme de notre terme, parce que je sais que vous êtes super occupés. Trois questions extrêmement rapides et un petit peu plus triviales. On est en pleine tournée de ce film-là. Vous l'avez commencé quand cette tournée? Vous la terminez quand?
Alors en fait, vu que nous on n'a pas d'argent pour faire nos films pratiquement. La Pompe, c'est un film qu'on a fait avec moins de 7000 euros, ce qui me semblait beaucoup, mais en comparaison de plein d'autres films documentaires, c'est même pas un petit budget quoi, c'est les à côté on va dire. Et du coup nous on s'occupe de l'écriture à la distribution quoi. C'est-à-dire qu'en plan, c'est nous qui nous occupons de toute la tournée. Ce qui semble simple, mais qui est pas une tournée comme ça qu'on fait pendant 2 semaines, nous ça nous prend pratiquement un mois, pas tous les jours, mais à gérer, etc. Du coup, on essaie de regrouper le plus possible des dates. Donc là, en gros, nous on a sorti le film en avril. D'avril à octobre, on a plutôt fait les trucs de festival, etc. Il se trouve que ce film a de la chance, puisqu'il circule aussi en festival et qu'il a eu même des prix. Enfin voilà, c'est super.
Plein de fois primé.
Là, par exemple, Bourdjou va à Berlin ce week-end pour une projection. Au festival de films à la semaine, voilà, Berlin Feminist Film Week.
Okay.
Et du coup, on a réussi à faire que Bourdjou soit invité aussi en tant que féministe turque. Du coup, c'était un truc super. Et du coup, à partir d'octobre-novembre, on a plutôt essayé de grouper. Donc, on a fait plusieurs petites tournées. Et là, c'est la deuxième ou la troisième, je sais plus. Et donc là, on a commencé le 2 mars à Saint-Julien-Molin-Molette, où il y a une super salle de cinéma qui s'appelle le Ciné-Molette, qui est une salle de cinéma dans un village et qui est super. Et après, on a continué le 3 à Saillant. Là, on a fait hier à Lausanne, on fait aujourd'hui à Genève. Demain, on va à Saint-Claude dans le Jura. Samedi, on projette le film qu'on a fait avant, qui s'appelle « Et nous jetterons la mer derrière vous », qui passe aussi dans le Jura, à Saint-Claude, à la Maison du Peuple. Et la semaine prochaine, on va à Valence, Saint-Étienne, Clèle et Drôme.
D'accord. Toutes les informations, là, on les trouve sur un site internet?
On les trouve sur notre site internet et sur le Facebook aussi.
D'accord. L'adresse du site?
C'est ozonaye.com.
Voilà, nous on mettra le lien aussi parce qu'effectivement c'est un petit peu long. Voilà.
Yes. Et du coup, une petite annonce, c'est que vu qu'on organise nous-mêmes les tournées, on est évidemment très très ouverte à toutes les propositions.
C'est quoi la question qui a été
posée?
Donc, pour les projections, évidemment. Les personnes qui souhaiteraient vous inviter.
Oui,
projections, vous accompagnez le film, des causeries sont possibles avec
tout ça. Et ben du coup dans le cadre de ça, voilà oui ouais. Évidemment ouais.
Ok, deux petites dernières questions très rapides. Retour du public jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez comme type de retour dans les populations que vous avez rencontrées? Les gens étaient interrogés, les gens étaient curieux, les gens étaient surpris?
Et ben c'est assez mixte, mais ouais, en général les gens sont plutôt contents.
D'accord. Ceux qui viennent, c'est un peu une population un petit peu hétérogène, hétéroclite comme ça.
Nous, ça dépend de l'endroit.
Nous, on essaie d'aller dans des endroits quand même très différents, parce que là, on a été aussi dans des grands festivals. Voilà, c'est un public très film, documentaire, etc. On a été dans des beaucoup plus petits cinémas, on a été dans des squats, on a été dans des cafés.
Dans les médiathèques.
Et du coup, ça fait aussi que le public n'est pas le même. Après, c'est un film qui n'est pas reçu du tout pareil si, par exemple, c'est des gens qui connaissent la Turquie ou qui sont turcs et kurdes que des gens qui n'ont rien à voir ou qui ne savent pas du tout. Et c'est intéressant parce que c'est pas du tout les mêmes. On a des retours assez bons des deux côtés, mais c'est pas du tout les mêmes choses que les gens nous disent. Et après, ce qui est assez chouette, c'est que ces derniers temps, on a eu pas mal de retours de femmes qui, étant donné que les portraits qu'on dresse sont plutôt dans la vie intime, et ben en fait, il y a des gens qui peuvent se retrouver, peu importe que ce soit en Turquie ou à l'autre bout ou très loin, et pas forcément dans le monde occidental, et ben qui peuvent se retrouver dans ce que les filles racontent, quoi. Et ça, pour nous, c'était hyper important.
Ok. Dernière toute petite question, selon vous, les défis de la société, les défis du féminisme, les lendemains qui attendent ces luttes féministes en Turquie, vous les voyez comment? Vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste? C'est un statu quo? On voit qu'Erdogan, c'est une situation assez critique, il y a des régressions, des fois, pourrait-on dire. Comment vous percevez ça, vous?
Eh bien, en fait, moi, j'ai envie de dire qu'on n'a pas forcément envie de prendre la parole pour les gens de là-bas. Par contre, bah, évidemment, nous, on soutient, on relaie, etc. Et après, je pense que la situation en ce moment, elle est difficile, mais que ces femmes, elles sont là, et que la particularité des luttes en Turquie, des gens qui luttent, c'est qu'ils sont censés en train de réinventer la lutte, parce que ça fait pas juste depuis qu'Erdogan est là que c'est le bourbier, mais c'est depuis beaucoup plus longtemps.
Mustafa Kemal, pour le moins, enfin.
Pour le moins, et même avant. Donc, je veux dire, c'est un peuple aussi qui s'est réinventé en permanence sur ses luttes, et pour ça, ben voilà, justement, on relaie et puis on fait confiance à la suite.
Ouais, avec la lutte féministe, elle est partout tout le temps. On le voit encore plus en ce moment par les différents discours qu'il peut y avoir, mais que en gros, notre film il est aussi beaucoup plus large que la Turquie, quoi. Et il raconte aussi qu'à un moment donné, il y a à s'organiser partout et beaucoup plus à leur exemple que contre ce qu'ils pourraient faire, quoi. Et voilà, et que du coup, bah, on le voit demain avec le 8 mars, où encore une fois, partout s'organisent et des marches officielles et des marches de nuit. Et que du coup, il y a plein de féminismes qui peuvent coexister, mais qu'il faut qu'ils soient tous là, quoi.
Très bien. Anouk Mangin et Noémie Aubry, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. Courage pour la suite des opérations.
Yes.
C'est donc Une autre montagne en turc.
Başkabida.
Voilà, un documentaire de 82 minutes qui ce soir sera ici projeté au Spoutnik, le plus beau cinéma du monde. Et ensuite, ben, la suite de la tournée, on la retrouvera sur le site internet.
Yes.
Merci à vous.
Merci.
Ben, merci.